17h, bienvenue dans le 5 à 7 au programme de ce mercredi 4 mai. À 18h20, du grain à moudre, 400 euros, c'est le montant de la revalorisation de la prime des instituteurs, annoncée hier par Manuel Valls, très attendue. La nouvelle aura quelque peu éclipsé les journées de la refondation de l'école qui se tenait en début de semaine à Paris. Un rassemblement aux allures de bilan pour une réforme qui soulève autant d'espoir que de contestation. Refondation de l'école, que reste-t-il d'une ambition? Nous en discuterons avec nos invités. Florence Robin, directrice générale de l'enseignement scolaire. Philippe Vatrelot, professeur de sciences économiques et sociales et ancien président du CRAP, cahier pédagogique. Et Renaud Fabre, ancien conseiller à la Cour des comptes, spécialiste des questions d'éducation et de formation. À 18h, le journal de la rédaction sera présenté par Anne Fauquemberg. Il sera notamment question du plan présenté aujourd'hui par la Commission européenne pour faire face à la crise migratoire. À 17h55, les carnets de l'économie, une semaine autour du crowdfunding, autrement dit le financement participatif. Dominique Rousset s'entretient avec Jean-Yves Léger et Alain Chevalier, tous les deux enseignants à l'ECP Europe. Ce soir, quelques exemples de projets du plus loufoque au plus remarquable. Mais d'abord, c'est l'heure du documentaire. Avec vous, Irène Omelianenko, bonjour.
Bonjour Mélanie Chalandon. Aujourd'hui, dans la collection Enquête, nous allons suivre deux anthropologues, Pierre Sanslivre et Micheline Sanslivre-Demont, dans un voyage entrepris en 1965 en Afghanistan. Alors, comme l'écrit Hayati Basarslan, c'est un pays qui parle à l'imagination avec ses caravanes de chameaux, même à Kaboul, ses yourtes dans le nord, les costumes traditionnels, les hautes coiffes des femmes turkmènes. Mais cet Afghanistan-là n'existe plus qu'à l'état de trace. Il porte donc le deuil de l'Afghanistan d'avant, non pas parce que c'était mieux, mais parce que c'est celui qu'ils ont connu qui n'est pas tout à fait le même.
Et heureusement, pour accompagner leur témoignage, existent de nombreuses photographies.
Oui, et c'est en nous appuyant sur elles que nous allons remonter le temps pour arpenter de la vallée du Panjshir aux plaines du Waziristan, un Afghanistan qui a bien peu à voir avec ce que nous en savons aujourd'hui.
Pierre et Micheline Sanslivre, une mémoire afghane. Un documentaire de Hayati Basarslan et Vincent Guec.
Sire, la France se félicite vivement de recevoir en votre personne l'éminent souverain d'un peuple fier, courageux et amical. Si la situation de l'Afghanistan a pu longtemps nous paraître lointaine, nous n'en étions pas moins proches de lui, par la culture et par le sentiment.
En 1964, un an avant le voyage de Zahir Shah en France, Pierre et Micheline Sanslivre, anthropologues suisses, découvraient l'Afghanistan. Tombés sous le charme de ce pays, ils décident d'y rester. Ils vont le sillonner à pied, à dos de cheval, en voiture, de la vallée du Panjshir aux steppes de Turkestan. 40 années de rencontres et de photographies, paysans, seigneurs de guerre, notables locaux, ouvriers, étudiants, Tadjiks, Ouzbeks, Pachtouns, Hazaras. Ces années de recherche ont été marquées aussi par une amitié durable entre eux et leurs interlocuteurs afghans. Leur attachement pour ce pays ne s'est pas refroidi. Il se poursuit au contraire jusqu'à aujourd'hui et se manifeste par l'écrit, par l'image et par la parole.
J'avais une trentaine d'années quand on m'a proposé de travailler en Afghanistan, d'être conseiller au musée de Kaboul. Mon professeur Jean Gabu de Neuchâtel avait en effet contribué à réorganiser le musée national afghan. Il avait effectué plusieurs missions en Afghanistan et il fallait continuer le travail. Et il m'a suggéré de poser ma candidature comme conseiller au musée. Ce que j'ai fait, ma candidature a été acceptée. Je suis donc parti pour Kaboul, c'était au printemps 1964. Et je suis parti avec une petite voiture d'occasion, par la voie maritime, j'ai embarqué à Gênes, j'ai traversé le canal de Suez, j'ai atterri à Karachi, Elle surmontait le long de l'Indus, surmontait le Sindh, et puis une partie du Pendjab, avec quelques étapes en route, entre autres à Peshawar. Ensuite, j'ai franchi le Khyber Pass. Et là, une petite anecdote. Au moment où j'ai passé la frontière afghane, c'était l'heure de midi. Les douaniers mangeaient, mais ils avaient laissé ouvert les barrières. Et n'étant pas sûr de l'emplacement exact de la frontière, j'ai contenu ma route. J'ai contenu ma route jusque presque 100 kilomètres quand une jeep de l'armée m'a attrapé, m'a fait retourner en arrière, a ramassé un interprète tchécoslovaque en passant pour m'expliquer que j'avais fait une grave erreur, que j'avais commis un délit. Et je me suis dit, voilà, ben, je vais passer ma première nuit en Afghanistan, mais en prison. Et en fait, ça s'est arrangé. On m'a traité d'imbécile, je méritais bien ça. Et on m'a laissé continuer sur Kaboul, avec ma petite auto. Bon, pour moi, Kaboul, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. J'avais vu quelques photos, mais je connaissais à peine où était l'Afghanistan. J'aurais eu de la peine à la faire figurer sur une carte. Disons, mes premiers jours, mes premières semaines ont été des jours et des semaines de découverte. Et Kaboul m'a beaucoup impressionné. J'ai adoré cette ville poussiéreuse qui ressemblait encore un peu à un mirage oriental. Il y avait encore des chameaux de temps en temps qui traversaient les avenues. Il y avait des voitures à cheval, il y avait un vieux quartier hindou, il y avait des artisans, des marchés. Et surtout à l'horizon, le paysage admirable des montagnes de l'Hindou Kush. Et petit à petit, j'ai entrepris l'apprentissage du persan parlé en Afghanistan, le Dari. Et bien sûr, je faisais mon travail au musée de Kaboul, qui est un très beau musée qui rassemblait le résultat des fouilles archéologiques des missions étrangères. Voilà comment ont été mes débuts en Afghanistan.
Donc, Micheline, vous êtes partie en Iran dans un premier temps pour apprendre le persan.
Oui, j'avais fait des études de sciences politiques à Lausanne. À l'époque, les femmes ne votaient pas, donc il n'y avait pas beaucoup de débouchés. J'ai appris que je pourrais avoir une bourse pour étudier le persan en Iran. Et puis je me disais qu'après tout, c'était une ouverture sur les pays du Moyen-Orient. Donc j'ai eu cette bourse pour l'université de Téhéran. J'avais moi aussi, j'étais au début des 30 ans. Et je suis allée à Téhéran, j'ai passé une année à l'université avec d'autres étudiants étrangers. Je ne suis pas rentrée en Suisse pendant les vacances d'été, parce que des amis venaient de Suisse et on avait le projet d'aller en Afghanistan. C'était en 62. Je suis retournée 2 ans plus tard, en 64, et c'est là que j'ai rencontré Pierre. Voilà, les choses se sont enchaînées. Et depuis les années 66-68, nous avons toujours travaillé ensemble en Afghanistan. On était jeunes mariés aussi. Ah ben donc oui. C'était aussi une découverte l'un de l'autre. Et quand on revoit ces photos, ça nous rappelle, nous aussi, des souvenirs de formation. Attends, alors là c'est année par année.
C'est les traces de tous nos séjours.
Voilà,
d'études en Afghanistan.
Afghanistan général, Afghanistan réfugiés au Pakistan, Afghanistan les retours, Afghanistan 1987, 2002, 2005.
Non,
je crois que c'est quand même l'un des
au début.
Voilà,
voilà.
Photo personnelle. On avait souvent quelqu'un du village qui nous accompagnait, d'un village à l'autre, aussi ne serait-ce que pour nous présenter.
Il y avait d'autres marcheurs, d'autres voyageurs. Les Afghans sont de grands marcheurs. Tout le monde n'a pas un cheval, un âne ou une voiture. Donc les gens marchent d'un village à l'autre. Ils marchent pour aller au marché, lors des jours de marché dans les villages voisins. Donc on chemine avec d'autres personnes, on parle, on apprend des choses, ils apprennent des choses sur nous et le pays d'où on vient. On se rappelait les mots de Rousseau qui disait, je crois, je ne connais qu'une façon plus agréable de voyager que d'aller à cheval, c'est d'aller à pied. Eh bien, c'est bien ce qui nous est souvent arrivé en Afghanistan.
Mais évidemment, on passait des fois 2-3 jours dans un village, et puis on continuait. Donc, par la force des choses, on habitait chez les gens. Donc, il y avait parfois un chef de village, ou bien parfois on a dormi à la mosquée, ou on habitait chez le chef du village, et puis ensuite, eh bien, on continuait. Donc, c'est de village en village, de campement en campement qu'on a marché pendant des jours et des jours.
Le centre de l'Afghanistan est très très montagneux, très désert aussi. De loin en loin, on trouve un câlin, une ferme, de hautes vallées. Ici, c'est entre 2 et 3 000 mètres d'altitude. Ces paysages déserts, souvent très lumineux, ces paysages ne me sortent pas de l'esprit. Là,
les labours d'automne.
Nord-est de l'Afghanistan, c'est des terres, des collines de lush, donc de poussière pulvérulente, qui sont extrêmement fertiles à la moindre pluie. Encore faut-il la pluie.
Alors après, il y a de la neige, et souvent, il y avait un second labour qui était fait sur neige pour que la neige ne s'évapore pas, mais qu'elle pénètre dans le sol.
C'est une marche qu'on n'a pas oubliée.
Ah non, on n'a pas oublié. Là, on avait fait un immense circuit à pied autour de Kaïssa, pendant une dizaine de jours.
L'Afghanistan est devenu une république, c'était un royaume jusqu'à ce matin. Le beau-frère du roi, un ancien premier ministre, a donc pris le pouvoir. Mohamed Daoud Khan affirme qu'il veut instaurer une véritable démocratie et sortir l'économie du marasme. La loi martiale a été instaurée à Kaboul, la capitale du pays. Le nouvel homme fort afghan est connu pour sa fermeté. Il a dirigé le gouvernement pendant 10 ans, jusqu'en 1963, et il a la réputation d'être très ferme à l'égard du grand voisin de l'Afghanistan, c'est-à-dire le Pakistan. Quant au roi, il était à Ischia, en Italie, au moment du coup d'État ce matin. Il est parti pour Rome ce soir, mais jusqu'à présent, aucun étranger n'a pu l'approcher.
Quand je suis arrivé en Afghanistan, je pouvais avoir l'illusion d'un pays à la fois traditionnel, paisible. Mais en réalité, derrière les apparences, il y avait déjà de grandes tensions, de grandes forces à l'œuvre. C'est un pays violent, dont la violence était rentrée, l'oppression était partout, les déséquilibres, les inégalités étaient partout également. Quelque chose devait se passer. Et on ne pouvait pas savoir si ça allait être des révoltes paysannes, des révoltes ethniques. En fait, il y a une première révolution, ou plutôt un premier coup d'État qui ressemblait un peu à un changement au sommet, puisque le cousin du roi, Daoud, a pris le pouvoir et a amené l'exil de son cousin de roi, c'était en 73. Et ensuite, alors, il y a eu un coup d'État qui était plus d'un coup d'État, mais qui était l'amorce d'une révolution, provoquée surtout par des éléments de l'intelligentsia et de l'armée acquis au modèle marxiste. Ça, c'était le coup d'État de 78. Et toute cette violence rentrée antérieure, qui existait déjà, bien sûr, sous la monarchie, a pu se donner libre cours.
On peut dire que c'est déjà à partir de 78, même avant l'intervention soviétique, que des premiers réfugiés sont partis au Pakistan. Il y avait déjà, vu les mesures mises en œuvre, vu des lois, vu des décrets,
Réforme agraire,
suppression par exemple de la dot du Douer, qui était une mesure qui permettait également de rééquilibrer certaines forces financières. Tout ça, ça a déjà amené des réfugiés, quelques milliers, ils n'étaient pas encore traînés. Bon,
si les Soviétiques sont intervenus en fin décembre 79, c'est qu'il y avait déjà des révoltes partout. Dans presque toutes les provinces, le gouvernement communiste était aux abois, ne pouvait plus maintenir l'ordre. Le premier secrétaire général et président de l'Afghanistan avait été assassiné. Un autre du même parti avait pris la succession. Il allait être assassiné à son tour avec l'arrivée des Soviétiques. Donc l'Afghanistan vivait entre ce coup d'État marxiste de 78 et cette fin de 79, vivait dans une atmosphère et dans une réalité de révolte contre le pouvoir en place. Et les Soviétiques sont venus, au fond, sauver l'équipe mise en place à Kaboul.
Le coup d'État en Afghanistan, une opération téléguidée par Moscou, une nouvelle étape de la stratégie soviétique. L'ancien président Amin a été renversé, condamné à mort et exécuté. Le nouvel homme fort s'appelle Karmel. C'est un ancien vice-premier ministre, exilé depuis plusieurs mois en Tchécoslovaquie. Il n'est pas revenu seul hier. Les troupes soviétiques acheminées ces derniers jours à Kaboul ont mis la main à la pâte pour renverser le régime. Une nouvelle étape dans la stratégie soviétique, Ralph Pinto.
Oui, les choses sont maintenant très claires du côté de Moscou comme du côté de Kaboul. D'ailleurs, les Afghans ont demandé l'aide militaire au Kremlin, militaire, politique, économique, sociale, l'aide globale. Ils l'ont obtenue. Et l'on sait aussi maintenant quel style de pouvoir les Soviétiques vont conseiller leur protéger. Là encore, mention est faite par Moscou du respect de la sainte religion islamique, de l'unité de toutes les forces nationales et progressistes. En un mot, la consigne sera conciliation. Conciliation pour construire un État solidement lié à Moscou. En 19 mois, l'Afghanistan a connu 3 coups d'État. Cette fois-ci, il semble bien que ce soit l'aboutissement de la stratégie de Moscou. L'appareil soviétique est maintenant installé en Afghanistan, un État tampon entre l'Iran et l'Union soviétique. Le glacis a encore gagné, Moscou a mis le paquet. Des milliers d'hommes sont intervenus et certains auraient fait le coup de feu pour installer le protégé au pouvoir. À côté de cela, les combattants islamiques qui se réclament eux aussi de la révolution islamique paraissent bien peu de choses.
Pierre Sanslivre, à cette époque, le Parti communiste au pouvoir prend aussi la décision de changer les couleurs du drapeau. Il est dorénavant uniquement rouge, alors qu'auparavant, ce drapeau était composé du noir, rouge et vert. On avait enlevé le vert, couleur de l'islam.
C'est-à-dire une des factions du Parti communiste, du Parti démocratique du peuple afghan, comme on l'appelait, comme il s'appelait, a été remplacée par une autre faction. Le RALK a été remplacé par le Parcham, donc le peuple par le drapeau. Mais paradoxalement, le régime mis en place par, avec l'aide des soviétiques, qui était celui de Babrak Karmal, a instauré tout à coup un régime de multiethnique. Pour être plus exact, un régime où les différents groupes ethniques avaient le droit d'expression culturelle. Encore sous Daoud, surtout sous Daoud, les Afghans étaient des Afghans. Il n'était pas question de différents groupes ethniques, ouzbeks, turkmènes, baloutches, pachaï ou nouristani, que sais-je. Il n'y avait que des Afghans. Avec ce régime mis en place par les Soviétiques, au contraire, on a fait un peu comme l'Union soviétique, où l'Empire soviétique était fait de différentes nationalités, tous unis bien sûr, mais ayant le droit d'exprimer sa personnalité culturelle et linguistique. Eh bien, en Afghanistan, on a instauré quelque chose de semblable, sauf que ces différents groupes ethniques, qui avaient désormais le droit de s'exprimer dans leur langue, de publier dans leur langue, ces différents groupes ethniques n'avaient pas de base territoriale. Donc, tout d'un coup, il y a eu une nationalité hazara, une nationalité ouzbek, une nationalité baloutche, une nationalité nouristani. Et à mon avis, c'est une des seules mesures des soviétiques qui a gardé une présence aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, les groupes ethniques s'affirment en tant que tels. Ils ont leur place dans la constitution. Ils sont nommés dans l'hymne national afghan. Et on tient compte, plus ou moins, dans la composition du Parlement, on tient compte de cette multiplicité, de cette diversité ethnique. Une partie de notre recherche, après nos travaux sur le bazar de Tashkent, a été une recherche sur les contacts entre les différents groupes ethniques et groupes linguistiques d'Afghanistan, qui formaient des groupes d'intérêt également politiques, en vue de la députation à Kaboul, par exemple. En général, les fonctionnaires subalternes étaient recrutés sur place, parmi les lettrés locaux, tandis qu'à partir du niveau de chef de district ou percepteur ou commandant de police, alors c'est des gens envoyés d'une autre province. C'est la politique systématique du gouvernement de ne jamais mettre dans un centre provincial ou subprovincial un chef de district ou un gouverneur de province qui venait de la région même. Les choses ont changé maintenant. La faiblesse du gouvernement Karzai fait que c'est des notables locaux qui règnent localement. À l'époque, nous les trouvions, dans les années 60-70, c'était différent. Donc les fonctionnaires moyens et hauts étaient des étrangers à la région. Et parfois, il y avait même des difficultés de compréhension linguistique entre les deux.
Quand Daoud est arrivé au pouvoir, il a exercé une politique plutôt nationaliste. C'est-à-dire, il a interdit les surnoms ethniques non pachtounes et la diffusion des médias en langue autre que le dari et le pachtou. Est-ce que cela a entraîné un soulèvement des islamistes ?
On peut dire que déjà sous Daoud, il y a une tentative de prise de pouvoir régionale des islamistes. entre autres le Hezb Islami avec Ekmatyar et le Jamiat qui se forme à ce moment-là. Et donc les premiers réfugiés musulmans, islamistes, datent de l'époque de Daoud. Mais bien sûr, il n'était que quelques milliers au Pakistan. Avec le régime communiste, ils vont s'élever à des dizaines de milliers en 78. Et avec l'arrivée des soviétiques, leur nombre va augmenter de façon considérable. Il va avoir 4, 5 millions de réfugiés au Pakistan au milieu des années 80. Et pas mal également en Iran. Enfin, en Iran, les Afghans en Iran ont commencé par être des travailleurs immigrés qui ont un peu remplacé les Iraniens qui étaient aux prises avec l'Irak. Donc les soldats iraniens étaient remplacés par des travailleurs migrants afghans. Et brusquement, avec le conflit, ils sont devenus des réfugiés. Ils étaient considérés comme des opposants au régime communiste. Au Pakistan, les réfugiés étaient très nombreux et se rattachaient en général au parti de la résistance dont les états-majors étaient hébergés au Pakistan. Alors certains de ces partis étaient islamistes, comme le parti de Gulbuddin Ekmatyar, les islamistes, comme le parti de Rabbani et de Massoud, le Jamiat Islami. D'autres de ces partis étaient nationalistes.
Alors, ce qui est intéressant, si je peux juste ajouter, parce que vous parliez on parlait des ethnies, c'est qu'au fond, aucun des partis ne s'est revendiqué comme étant un parti ethnique. Il n'y a pas eu de parti tadjik ou de parti hazara, etc. Ils ont tous été islamiques ou nationalistes. Aucun de ces partis n'a revendiqué donc une ethnicité quelconque, ni à un moment donné, ces ethnies ne sont demandées à être rattachées
aux
pays voisins. Donc les Ouzbeks n'ont pas demandé à être rattachés à l'Ouzbékistan, les Tadjiks au Tadjikistan, etc. Donc il y a eu, pendant toute cette période de guerre, il n'y a jamais eu une revendication pour modifier les frontières de l'Afghanistan.
Tous ces partis se prétendaient ouverts à tous les groupes ethniques de l'Afghanistan. Mais en réalité, il en est autrement. Tout le monde savait qu'il y avait surtout des Pashtuns dans le Hezb Islami, et qu'il y avait surtout des Tadjiks dans le Jamiat. Avec, bien sûr, des nuances, parce que rien n'est simple. Il est clair que les ethnies minoritaires, par exemple, dans certains districts du Nord, les Ouzbeks hostiles aux Tadjiks, se sont mis par opposition au Hezb Islami, où dominent les Pashtuns, mais pour contrer les Tadjiks, etc., etc.
On s'est bien rendu compte à ce moment-là que c'était un autre type d'études que l'on faisait. On a étudié les gens en exil, les gens en transnationaux et avec tous les réseaux qu'ils avaient, parce que beaucoup ont quand même gardé, disons, des relations avec le pays d'origine, avec ceux qui étaient allés plus loin. Donc c'est à ce moment-là qu'on n'a plus étudié une petite communauté comme le bazar de Tashkurgan, ce qui était le premier travail, mais on a étudié, disons, une société éclatée. Et c'est ça, au fond, on s'est rendu compte à ce moment-là que c'était un autre type d'anthropologie qu'on faisait.
Les réfugiés afghans au Pakistan, en grande partie, étaient dans un pays où l'on parlait la même langue qu'eux. Ils étaient proches de chez eux. En été, parfois, ou en automne, ils rentraient chez eux clandestinement pour faire les moissons. On faisait venir d'Afghanistan les jeunes filles à marier pour qu'ils puissent épouser le cousin Moudjahidine ou réfugié au Pakistan ou en Iran. Les lycéens des écoles de l'exil étaient emmenés par les commandants Moudjahidine pour faire une sorte d'excursion scolaire au djihad, n'est-ce pas ? Donc, toutes les idées préconçues qu'on a des réfugiés comme des individus coupés de tout, déstructurés, correspondaient à rien du tout sur le terrain. On a dû réapprendre ce qu'on représentait être réfugié.
Oui, parce qu'en fait, ne serait-ce que pour l'Afghanistan, on peut dire qu'à peu près tous les Afghans ont, pendant la guerre et pendant ces 30 dernières années, ont été déplacés, soit à l'intérieur de leur pays, loin ou près, soit à l'extérieur, ou en tout cas, ils ont eu des membres de leur famille qui a été en Iran, qui voire a été plus loin, mais en tout cas au Pakistan. Au fond, c'est ces parcours qu'ils ont tous opérés qui fait au fond la trame de leur existence.
Voilà Kaboul, encore une fois.
Voilà la
rivière Kaboul. Bon, ça, c'est en 1990.
Oui, oui, en 90, oui. Que qu'on est retourné.
C'est encore le régime communiste de Najibullah. Et il y avait d'immenses peintures monumentales qui exaltaient les valeurs du régime. Une mère patrie avec un soldat qui la défend et qu'elle envoie. Et là,
Deux jeunes filles
qui ont en cheveux.
Comme on n'en voit plus beaucoup à Kaboul de toute façon.
Qui n'ont pas de voile. C'était
en 90. Voilà.
Ici, la poste centrale.
Ils envoient des lettres, ils essaient d'écrire à leurs parents à l'étranger.
On peut rappeler que beaucoup de gens en Afghanistan vivent grâce aux subsides que leur envoient leurs parents à l'étranger, en Iran, au Pakistan, mais aussi en Europe et aux États-Unis. Les transferts de fonds privés qui se font de l'étranger à l'Afghanistan, qui permettent à une partie de l'Afghanistan de vivre, représentent plusieurs milliards de dollars.
Mais plus que ce qu'est de l'aide étrangère. Ça leur permet au fond de vivre et de survivre. Kaboul est une ville donc entre 1700 et 1800 mètres d'altitude,
oui,
formée de plusieurs collines. Et on voit que l'endroit où la ville est construite est relativement restreint, les habitations ont grimpé sur les collines, mais les gens vivent dans des conditions difficiles, il n'y a pas d'accès.
Il n'y a pas d'eau courante, donc il faut que les porteurs d'eau apportent deux fois par jour l'eau jusqu'aux habitations les plus élevées sur la colline. Bon, ben ça, c'est la ville de Kaboul en automne, arrière-automne. C'est la rivière de Kaboul presque à sec.
Et qui emmène tous les déchets, toutes les immondices.
Toutes les routes qui mènent de Kaboul dans les villes de province, surtout celles-là qui mènent au nord, étaient bordées de ruines de la guerre, des vieux camions qui avaient été bombardés, des camions-citernes, des restes de chars soviétiques. Mais ces ruines disparaissent très vite, ces déchets, ces restes disparaissent très vite, parce que les Afghans sont de merveilleux récupérateurs. Ils récupèrent tout ce qui est réutilisable, surtout le métal, qu'ils revendent, je crois, aux aciéries pakistanaises. Donc cette carcasse de blindés allait peu à peu disparaître. Et lorsqu'on est retourné en Afghanistan quelques années plus tard, il n'en restait bien sûr plus rien.
Accélération de l'histoire en Afghanistan, destitution du président Najibullah qui avait tenté de quitter le pays, suicide de son ministre de l'Intérieur, évacuation de 200 diplomates et conseillers russes à bord d'avions spéciaux. Bref, c'est le début de la fin du régime communiste de Kaboul. Kaboul qui devrait tomber entre les mains des rebelles afghans dans les jours ou les heures qui viennent. Serge Martin.
Oui, en fait, il est assez difficile ce soir encore de savoir exactement ce qui se passe en ce moment à Kaboul au regard des informations floues bien contradictoires qui nous parviennent. Quoi qu'il en soit, la peur règne dans la capitale afghane. On a vu aujourd'hui les files d'attente s'allonger devant les magasins d'alimentation. Les 1,5 million d'habitants que contient Kaboul redoutent l'arrivée des Moudjahidines qui pourraient se livrer à une lutte fratricide pour la conquête du pouvoir. Des rebelles afghans qui sont ce soir aux portes de la capitale. Au nord de la ville, les hommes du lion du Panjshir, les rebelles du commandant Massoud. Au sud, ceux du leader fondamentaliste Gulbuddin Ekmaktiar. Quant aux derniers Russes qui se trouvent encore au milieu de ce cirque enneigé, ils essaient de fuir la capitale, sachant que les Moudjahidines n'ont pas oublié les milliers de morts provoquées par l'invasion soviétique en 1979.
Pierre sans livre suivent alors 4 années de guerre civile qui prendra fin avec l'arrivée des talibans. D'ailleurs, Kaboul tombera entre leurs mains sans combat le 27 septembre 1996.
Oui, alors en effet, en 92, le régime communiste s'est effondré. Najibullah essayait de s'enfuir, il était retenu à l'aéroport, exécuté plus tard, quelques années plus tard par les talibans, et les Moudjahidines se sont emparés de Kaboul. Ils ont essayé de former un gouvernement de coalition, mais très vite le conflit a éclaté entre ces différents partis, en particulier entre le Jamiat, donc le parti de Massoud, et le Hezb Islami, le parti d'Ekmatyar, mais pas seulement. Il y a eu aussi des combats très durs entre le Jamiat et l'Hazara. Donc très vite, ces partis se sont entre-déchirés. Le gouvernement n'a rien pu faire. En principe, il y avait une présidence tournante qui n'a jamais fonctionné. Donc les différents chefs de guerre se sont repliés sur leurs fiefs entourés de leurs troupes et Kaboul a été en partie détruit à cette occasion avec Matiar, a lancé ses projectiles, ses roquettes, ses bombes à partir du sud de Kaboul. Et toute la partie sud de Kaboul a été détruite ou gravement endommagée, y compris le musée national afghan, y compris toute la ville ancienne. Et la ville s'est en quelque sorte déplacée vers le nord.
Pierre, dans quelles circonstances vous avez rencontré les premiers talibans ?
Les talibans, il n'est pas, le mot taliban n'est pas inscrit sur le front, n'est-ce pas, de ceux qui le sont, mais en général on les reconnaît parce qu'ils ont des allures du sud, ils ressemblent à des pachtounes du sud, avec un turban et une barbe qu'on peut repérer. En fait, nous sommes retournés à Kaboul en 98 pour une mission liée au CICR. Notre première rencontre avec les talibans était en fait sur la route entre le Pakistan et Kaboul. Je prenais des photos au bord de la route quand une camionnette Toyota s'est arrêtée et les talibans n'aimaient pas qu'on prenne des photos. Sur la photographie d'êtres animés était interdite. Ils ont arrêté notre véhicule, qui est un véhicule du CICR, et il s'est trouvé dans l'équipe des talibans un vieillard pour nous sympathique qui a dit « Ah ben, ces voyageurs étrangers prenaient des photos du paysage, sans doute. » Oui, oui, c'est bien ça. » Et ils nous ont fait signe de continuer. Et puis, on a vu d'autres talibans à Kaboul, bien sûr, puisque les talibans apparaissaient à l'heure de la prière pour engager les citadins à aller faire les prières rituelles. On envoyait quelques-uns, mais pas beaucoup, qui assuraient le service de sécurité de la ville. On voyait moins d'hommes armés à Kaboul sous les talibans que sous le régime des Moudjahidines. Mais les talibans faisaient régner un ordre de fer, contrairement au régime précédent où on entendait des coups de feu, où il y avait beaucoup de désordre.
Les commerçants et autres voyageurs étaient tellement racketés que le commerce devenait presque impossible.
Il y avait du désordre partout, on ne pouvait pas circuler sans risque de se faire arrêter par des brigands, des soi-disant moudjahidines ou... je ne sais qui ont voulu à votre bourse, s'emparer des filles dans les villages. Enfin, c'est un régime détesté, un peu près partout, le régime du Moudjahidine. Avec les talibans, c'était l'ordre absolu. Un ordre très dur qui allait bientôt devenir insupportable. C'était l'ordre absolu. On pouvait circuler sans crainte, pourvu que... les femmes occidentales ou autres soient dûment voilées.
Mais les talibans, lorsqu'ils sont arrivés, nous, on était à Kaboul en août et septembre 96. Les gens les ont accueillis, les talibans, parce qu'enfin, il allait régner l'ordre, la justice. Et je veux pas dire que les filles pouvaient sortir, c'est pas ça.
C'est pas la politique féminine des talibans qui ont nui à leur image. C'est le durcissement du régime, des mesures arbitraires, le fait qu'ils apparaissaient un petit peu en terre non pachtoune comme des reconquérants pachtounes. C'est ça qui a fini par les rendre insupportables. C'est pas leur politique à l'égard des femmes qui était considérée comme scandaleuse, avec raison, bien sûr, en Occident.
Oui, ils ont surtout sévi dans la grande ville. Kaboul était considéré comme une ville un peu
pécheresse.
C'était là où il y avait les communistes, c'est là où les femmes étaient sorties sans mettre de foulard, sans se couvrir, où les jeunes filles pouvaient sortir avec des robes relativement courtes, etc. Donc c'est ce Kaboul-là qu'ils voulaient punir. Donc l'emprise des talibans, c'est surtout et avant tout... fait montre à Kaboul. Dans les campagnes, là où on est retourné en 2002 et 2005, il n'y avait jamais vu de talibans de leur vie dans le nord du pays.
Les talibans occupaient pas tous les villages, bien sûr, aux endroits du front avec l'Alliance du Nord, avec les troupes de Massoud. Et puis également au contact avec les Hazaras dans le centre. Mais dans toute la région sud, toute la région pachtoune, il n'y avait pas de vague. Hein. Les talibans étaient en somme chez eux, étaient bien reçus, pas toujours avec enthousiasme, mais étaient tout à fait tolérés. Il faut dire que les talibans arrivent comme des musulmans afghans qui s'opposent à l'occupation étrangère. Ça, c'est leur grande argumentation. C'est que l'Afghanistan est occupé par les Américains à leur valet, des non-croyants, par des chrétiens ou que sais-je, des non-musulmans étrangers. Nous, le premier article de notre credo, c'est de se débarrasser de ces forces étrangères. Après, on verra. Le succès du mouvement taliban est dû à plusieurs facteurs, comme c'est souvent le cas. D'abord au fait qu'ils se proclament les porteurs du vrai islam, de l'islam authentique, de l'islam du temps du prophète. Ensuite, le fait que ce sont des vrais pachtounes qui ont vocation à gérer l'Afghanistan. Et puis, ils sont des combattants nationalistes aussi, et ça fait une partie de leur succès, des combattants nationalistes qui veulent se débarrasser de l'occupation étrangère. Donc les talibans sont bienvenus dans la mesure où on n'aime pas le gouvernement Karzai, qu'on estime corrompu, arbitraire, que dans la mesure également où on est hostile pour de bonnes ou mauvaises raisons au ministre ou au commandant tadjik, ouzbek, eh bien on est parti dans les talibans. Dans la mesure où on souffre d'une administration corrompue, où la justice n'est pas donnée, où il y a l'arbitraire des petits commandants locaux, eh bien les talibans apparaissent comme apporter une prompte et vraie justice conforme à l'islam. Donc il y a une forte intelligibilité des talibans de la part d'une partie de la population qui éprouve beaucoup d'empathie pour eux. Les talibans au moins ne sont pas des étrangers, les talibans sont des nôtres soit parce qu'ils sont des musulmans comme nous, soit parce qu'ils sont des pachtounes comme nous.
ਸ਼ਦ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲਾਈ
Micheline Sans Livre, toutes ces luttes ont entraîné l'exil d'un grand nombre d'Afghans vers les pays voisins.
On peut dire que, il y a encore, d'après les derniers chiffres qu'on a, il doit y avoir 1,5 million d'Afghans qui sont encore au Pakistan. D'ailleurs, beaucoup ont des cartes pakistanaises. Il y a eu énormément d'enfants qui sont nés au Pakistan. Ceux-ci, on ne les compte même pas. Il y a eu une très, très forte natalité. Donc, je pense que de descendants d'Afghans, ils sont plusieurs millions au Pakistan. Bon, ceux qui ont eu les moyens, ceux qui ont pu partir plus loin, déjà, disons, à la chute du roi en 73, il y a des grandes familles afghanes qui se sont réfugiées en Occident. Donc, il y a eu plusieurs vagues. Et ces vagues correspondent, au fond, à des strates de la société aussi. Les gens de la haute, ou de l'aristocratie, ou de
la famille royale, etc., sont partis, en premier. Et ensuite, il y a eu la famille de Daoud, bien sûr, et les grands Mohammedzai. Certains sont en Suisse, d'autres en effet aux États-Unis. Et en général, ceux qui étaient lettrés, qui savaient un peu l'anglais, qui avaient été au lycée dans les villes ou à Kaboul, en effet, ont réussi un exil plus lointain, c'est-à-dire aller en Europe, aux États-Unis. D'autres étaient en Inde, qui a traditionnellement de bonnes relations avec l'Afghanistan, en Australie, en train de connaître, au Japon, à Singapour, les pays du Golfe. Il y a une diaspora afghane qui couvre presque la terre entière.
Alors, il y a eu ceux qui ont fui d'abord le régime de Daoud, ceux qui ont fui ensuite le régime communiste, ceux qui ont fui l'époque soviétique. Et puis, quand les Moudjahidines sont arrivés, on a vu arriver ceux qui étaient les hauts personnages du gouvernement communiste. Donc, il y a eu constamment des gens qui sont allés et venus, ceux qui sont Et puis, après la chute des talibans, il y en a qui sont retournés en Afghanistan pour essayer de remettre sur pied leur business ou reprendre possession de leur propriété immobilière. Alors, on a vu des gens qui, dès 2001-2002, qui retournaient pour essayer de retrouver leur titre de propriété, quitte ensuite, à, par exemple à Kaboul, à louer ensuite ces immeubles très chers à toutes les organisations internationales. Quand on regarde sur Internet le prix des maisons à Kaboul pour les Occidentaux, eh bien c'est des 12 000 dollars par mois. Bon, évidemment, il faut aussi tenir compte de tous ceux qui, par la force des choses, sont rentrés en Afghanistan, non pas à Kaboul, mais qui sont rentrés dans leur village. Il y a beaucoup, beaucoup de réfugiés. Il y a quand même plusieurs millions de réfugiés afghans au Pakistan, voire en Iran, qui sont rentrés au pays.
Qui posent d'autres problèmes.
Alors, certains rentrent simplement à Kaboul parce que leurs terres ont été prises ou ils ne savent plus qui est propriétaire de leurs terres. C'est des cousins, c'est des commandants qui ont pris possession de leurs terres ou de leur commerce. Donc, c'est aussi ça qui fait que la ville de Kaboul, qui avait avant la, au moment dans les années 70, qui avait 600 millions d'habitants.
600 000,
et qui sont maintenant entre 2,5 millions et 3 millions d'habitants. C'est dû au fond au retour de réfugiés afghans qui ne sont pas rentrés dans leur village ou dans leur région d'origine. Pendant toute cette guerre, on peut dire qu'il n'y a pas eu d'Afghans qui n'a pas été déplacé d'une façon ou d'une autre. Il y a quand même eu à un moment donné, dans les années 80, 6 millions sur 15 ou 16 millions que comptait l'Afghanistan, d'Afghans qui ont été
réfugiés au Pakistan, réfugiés en Iran.
Et puis réfugiés intérieurs.
Personnes déplacées à l'intérieur, c'est chiffré à des centaines de milliers, n'est-ce pas? Quand les Russes, par exemple, voulaient sécuriser une route, comme la route du Nord qui mène de Kaboul à la frontière soviétique, eh bien, ils déplaçaient les populations qui habitaient le long de la route, détruisaient les villages qui auraient pu abriter les moudjahidines, aplatissaient les deux côtés de la route pour empêcher tout piège possible. C'est ce que font maintenant les Américains lorsqu'ils construisent une route près de Kandahar, n'est-ce pas? Il y a une bande de 30 mètres à gauche et à droite qui est absolument dégagée pour des raisons de sécurité. Bien, les Russes ont fait ça. Conséquence, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de réfugiés de l'intérieur qui allaient vivre dans les montagnes, qui se réfugiaient peut-être à Kaboul ou au contraire dans d'autres villages. Donc, ce qui est fondamental, c'est l'expérience de l'ailleurs qu'ont eu une bonne partie des Afghans.
Ils ont appris un peu d'anglais, ils ont appris un peu d'ourdou, ils étaient bien obligés d'apprendre ou de connaître quelques mots de la langue au Pakistan. Beaucoup, il y a quand même un assez grand nombre, en tout cas 2 ou 3 millions, qui ont été en Iran. Et en Iran, ils ont, disons, appris à voir un pays qui était beaucoup plus moderne. Ils ont vu des femmes qui conduisaient des voitures. Les femmes qui sont entrées d'Iran, elles, ce sont des femmes qui ont beaucoup évolué et ce sont souvent elles.
Qui ont vu une certaine émancipation de la femme en Iran. On croit ici que la femme en Iran est une pauvre chose qui est limitée au domaine familial, qui doit être voilée. Mais vu de l'Afghanistan, la femme en Iran est particulièrement émancipée. Elle peut être chef d'entreprise, elle a son mot à dire.
Enfin, disons, nous avons travaillé aussi dans les années 2002 et 2005 au sein de ces nouveaux conseils de communauté, ces conseils villageois. Et la plupart du temps, il y a un conseil des hommes et il y a également une délégation de femmes. Ils ne travaillent pas ensemble, mais disons, ils communiquent. Et souvent, celle qui est la responsable de cette communauté, de ce conseil villageois,
c'est une femme.
Elle est allée en Iran. Elle est allée en Iran. Elle sait donc lire et écrire. Elle a une certaine autorité. Et c'est elle qui fait souvent le lien entre les deux conseils.
Avec l'arrivée de la coalition en 2001 en Afghanistan, notamment à Kaboul, il y a eu une transformation.
Mais Kaboul a surtout eu pendant les premières années une impression que les choses allaient aller mieux. Et on a eu cette impression en 2002, lors de nos premiers séjours après le départ des talibans, qu'il y avait un grand optimisme. L'argent allait arriver, il y avait eu les conférences de Tokyo qui avaient annoncé des milliards, il y avait les troupes de l'ISAF et autres qui étaient là pour sécuriser le pays, de sorte qu'on a eu une impression d'optimisme. l'élection du président Karzai. Tout ça devait ramener l'Afghanistan à un état, sinon normal, du moins permettre une reconstruction assez, assez rapide. De sorte qu'il y avait quelque chose, un véritable vent d'optimisme qui soufflait sur l'Afghanistan. En tout cas, c'est ce qu'on a ressenti en 2002. En 2005, quand nous sommes retournés en Afghanistan, les choses avaient déjà un peu changé. Beaucoup de promesses n'avaient pas été tenues, l'argent était toujours là, c'est entendu, mais les talibans, entre-temps, s'étaient réveillés, avaient de nouveau des foyers dans le sud du pays, de sorte qu'on a commencé à sentir le déclin déjà dans notre séjour de 2005.
Il devait se passer quelque chose et il ne s'est pas passé, c'est ça, avec l'arrivée des Américains?
Oui, c'est pas seulement les Américains. Après les accords de Berlin et d'autres réunions internationales, c'est une aide importante de plusieurs milliards qui a été promise à l'Afghanistan, promesse pas toujours tenue. Donc on trouvait, à Kaboul, pour assurer la sécurité, tout d'abord, c'était les forces de l'ISAF, qui comprenaient plusieurs nations. Nous, on a vu des troupes turques, on a vu des soldats italiens, français, et il y avait des contingents anglais très importants, hollandais, australiens, canadiens. Mais à Kaboul, on avait une impression d'effervescence internationale. Et dans les années 2005, d'un côté, il y avait déjà une résurgence des talibans dans la campagne, et quelques attentats à Kaboul, mais il y avait une effervescence fantastique. On constatait de l'affairisme. Il y avait une nouvelle banque qui se créait tous les mois. Il y avait jusqu'à 6, c'est peut-être toujours le cas, compagnies privées aériennes afghanes, n'est-ce pas, qui apportaient des gens, des rapatriés, des exilés riches, faisaient des trafics de toutes sortes, etc. On construisait des avenues à quatre voies. Il y avait un nouveau secteur près du secteur des ministères où les commandants et les riches afghans se faisaient construire des villas fantastiques qui ressemblaient à des châteaux californiens. Il faut se dire que Kaboul, que j'avais connu, peuplé de 3 ou 400 000 habitants, avait à ce moment-là 3 millions d'habitants. Donc à Kaboul, les affaires marchaient. Cette espèce d'effervescence avait quelque chose d'artificiel, d'abord parce que tout le monde savait bien, et les Afghans les premiers, que ce gouvernement était relativement impuissant à faire face à la corruption, faire face aux certains pouvoirs des chefs de guerre dans les provinces, que le gouvernement était, et les Américains aussi, étaient impuissants face au colossal trafic de l'opium et du pavot. Donc, on avait l'impression d'un développement bruyant et fragile et d'une montée des mécontentements de ceux qui ne profitaient pas des bonnes affaires du présent. Premier signe que nous avons vu avec Micheline que tout n'allait pas si bien, c'était déjà en 2002, lors d'une visite dans le Logar, nous avons vu des hélicoptères qui étaient américains, ceux-là, qui lâchaient des leurres de chaleur, c'est-à-dire des espèces de contre-fusées. Ça veut dire qu'ils essayaient d'écarter avec cela les roquettes qui pouvaient être lancées par des groupes rebelles qui étaient encore plus ou moins présents ou actifs dans le sud de la vallée du Logar, à 60-80 kilomètres au sud de Kaboul. Et ça, il faut bien le dire, le danger, et c'est bien ce qui s'est passé, c'est que les troupes étrangères, et surtout les troupes américaines, mais pas uniquement les troupes américaines, étaient ressenties petit à petit comme une troupe d'occupation. Multipliant les bavures et multipliant, disons, les atteintes à l'honneur afghan. N'est-ce pas? Les troupes américaines, au début, faisaient des visites nocturnes dans les maisons, ce qui est très grave pour un afghan, puisqu'on risque de violer l'espace intime quand un étranger entre là où il ne doit pas entrer. Et puis, effectivement, toute guerre, et surtout toute guerre civile et toute guerre asymétrique, entraîne une multiplication de victimes civiles non voulues, mais de plus en plus nombreuses.
Cette présence apporte énormément d'argent en Afghanistan. Donc il y a quand même des gens, des Afghans, qui profitent financièrement pour le moment. C'est une aubaine momentanée, probablement, parce qu'ils savent qu'après, ça va probablement disparaître. Mais quand on pense aux chauffeurs, aux gens qui doivent fournir des matériaux, à ceux qui ont dû construire ceci ou cela, aux interprètes, il y a énormément de gens...
Il y a des dizaines de milliers d'Afghans qui profitent de la présence américaine, la présence américaine de l'OTAN, la présence étrangère, ils sont devenus colossales, mais pour tout le monde, pour les talibans, dans la mesure où ils prélèvent des taxes ici ou là. Dites-vous que pour chaque camion de ravitaillement, et il y en a des milliers, des milliers, des milliers qui passent chaque jour, pour chaque camion qui va de Karachi à la frontière afghane, eh bien, ça signifie des taxes occultes,
la
protection money qui va au Pakistan, ou qui va au Taliban, ou qui va même à l'intérieur de l'Afghanistan à des chefs locaux. C'est un immense business. Les troupes américaines, mais pas seulement les troupes, l'aide étrangère qui rapporte des milliards par année.
Toute une économie de guerre.
Pour être un petit peu cynique, on peut dire que les Afghans souhaitent que les Américains ne partent pas trop vite. Qu'ils partent un peu, oui, les talibans, c'est très bien, oui, on les soutient pour des raisons idéologiques, ethniques ou tout autre, mais il faut que la manne reste. Donc c'est un immense système de prébende, de corruption, de subsides, de gains légitimes aussi, n'est-ce pas, qui est lié à la présence étrangère et qui fait partie du problème.
La dernière fois que vous êtes retourné en Afghanistan, c'était en 2012.
Exactement, en 2012. J'étais chargé d'une mission concernant le patrimoine traditionnel afghan. Et ces séjours nous ont montré combien l'insécurité et surtout les mesures de sécurité étaient pesantes. Où chaque voyage pose des problèmes, où on ne peut plus guère circuler par la route lorsqu'on est un étranger. On est obligé, pour un déplacement qui prenait quelques heures auparavant, de prendre un avion, où il n'est même plus possible de prendre les taxis publics dans la ville de Kaboul, mais des voitures anonymes et sécurisées. C'est bien que vous vous sentez en quelque sorte enfermé dans des maisons sécurisées. Vous allez dans des restaurants pour étrangers qui sont protégés par une double enceinte et ça ne vous garantit pas une sécurité absolue en plus.
Est-ce que la situation avec le nouveau président Ashraf Ghani s'est-elle améliorée ?
Les Afghans n'ont pas l'impression que certains des grands problèmes afghans, entre autres la corruption, entre autres la sécurité, ces grands problèmes ne sont pas résolus.
Il est presque meilleur sur le plan international que sur le plan national. Il est beaucoup à l'étranger. Je crois que là, il fait des accords avec les pays voisins, avec le Turkménistan, avec la Chine, ils ont avec le Pakistan, etc. Mais disons, sur le plan intérieur, il n'est pas considéré comme reconnu.
Il est pris dans les contradictions de la politique régionale, Pakistan, Iran, Chine. La situation de l'Afghanistan et l'autonomie de l'Afghanistan doit jouer avec des contraintes terribles.
Vous dites que l'Afghanistan a des problèmes avec les pays voisins. Oui. C'est pas les pays voisins qui ont des problèmes avec l'Afghanistan ?
On a affaire à des relations croisées, n'est-ce pas ? Il est clair que le Pakistan peut se croire menacé quand l'Inde a des positions et des bases trop importantes et des consulats trop nombreux en Afghanistan. Alors je peux penser aussi que l'Afghanistan peut être préoccupé par le soutien apporté par les services secrets pakistanais aux talibans. Je pense également que l'Afghanistan et l'Iran ont des sujets de préoccupation communs, mais peut-être quelques petites pommes de discorde également. On peut dire que la situation est très complexe, que l'intervention de la coalition n'a pas réglé grand-chose en 2001 et jusqu'à nos jours, et que l'Afghanistan n'est pas isolé dans le domaine des crises de l'ensemble des pays de cette région du monde.
Votre attachement pour ces pays ne s'est pas perdu ?
Ah non, l'Afghanistan, c'est ma vie, c'est la plus grande partie de ma vie.
Oui, l'Afghanistan me tient à cœur très fortement. Et nous avons un intérêt particulier pour la diaspora, c'est-à-dire pour les Afghans qui sont en Europe en général, en Suisse en particulier, avec qui nous essayons de suivre le destin de ceux qui ont été amenés, souvent obligés, quitter leur pays et qui continuent à mener une vie hors d'Afghanistan, mais une vie d'Afghan.
Mémoire afghane, un documentaire d'Ayeti Bazarslan, réalisation Vincent Deck. Merci à Pierre et Micheline Sans Livre qui, en attendant un nouveau voyage en Afghanistan, continuent leurs travaux. Micheline Sans Livre prépare le prochain numéro de sa revue Afghanistan Info. Pierre Sans Livre écrit, encore et toujours, avec une passion intacte. Sur les docks, coordination Irène Omelianenko, attachée d'émission Alison Sinard et Christine Bernard.